Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver dans cette belle émission Mission Vision pour mettre en lumière les enjeux, les personnes en situation de handicap et pas que les personnes en situation de handicap, ceux qui s'impliquent. Eh bien, aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais recevoir une personne que j'aime vraiment beaucoup, un de mes amis, mais pas que c'est pas juste parce que c'est mon ami, mais parce que il s'implique auprès d'étudiants en situation d'handicap, dont des étudiants qui ont un handicap visuel. C'est Alexandre Poitras. Bonjour Alexandre.
Bonjour Julie.
Je suis vraiment contente. On se retrouve ensemble encore.
Ben oui, tout à fait. J'ai eu la... Je suis devenue accro au micro, je crois.
Oui, hein? Bien là, je suis contente parce que moi, je trouve ça tout le temps intéressant de te faire un petit peu découvrir puis faire découvrir le travail que tu fais. Parce que, bon, tu travailles avec des étudiants qui sont en situation de handicap, dont qui sont en situation de handicap visuel, puisqu'il n'y a pas de différence. Tu sais, c'est pas comme, toi, tu vas juste aider ceux qui ont un handicap visuel. Donc, toi, tu prends les étudiants qui arrivent au cégep, peu importe leur défi.
Oui.
Si tu fais juste un petit peu expliquer, qu'est-ce que c'est ton travail exactement?
Bien, tout d'abord, avant d'expliquer mon travail, je dois quand même préciser que de où ça a commencé, cette histoire-là.
Bien oui.
Par ma formation en éducation spécialisée. Oui. Donc, j'ai travaillé dans les milieux scolaires primaires, secondaires.
Mm-hmm.
Donc, où on a un peu moins de contact avec les personnes avec un handicap visuel.
Oui.
Par contre, des fois, ben, on fait des découvertes et on est en apprentissage. Et j'ai perfectionné vraiment cette niche-là. Puis je vais expliquer pourquoi je dis une niche.
Oui.
Donc, au collégial. Donc, quand j'ai fait le saut en 2019 au niveau collégial, c'est là que j'ai eu tout un monde à découvrir et par rapport au handicap visuel. Donc, ça a commencé par, en étant conseiller en services adaptés. Un conseiller en services adaptés, c'est d'une personne qui va... Bien, c'est pas l'équivalent. C'est une personne qui accueille l'étudiant, qui regarde les limitations, puis fait l'adéquation avec le marché du travail, si dans un programme technique ou en lien avec son programme d'études préuniversitaires et discuter avec la personne à savoir où seront les obstacles potentiels par rapport à ses apprentissages.
Oui.
Par la suite, il y a des mesures d'accommodement qui sont mises en place pour enrayer la discrimination. Donc, si on ne mettait pas en place une mesure d'accommodement ou une mesure d'adaptation, bien, on demeurerait en situation de discrimination envers la personne.
Mm.
Donc, c'est ce que j'ai appris lorsque j'ai fait le saut collégial, hein, contrairement au secteur jeune. Donc, ce n'est pas les mêmes lois qui s'appliquent.
Non, puis en même temps, c'est intéressant de le dire parce que tu es éducateur spécialisé à la base et c'est là qu'on s'est rencontrés dans notre programme de formation comme technicien en éducation spécialisée. Mais à ce moment-là, tu ne savais pas là, que tu t'en irais au cégep. T'sais, au niveau de ta trajectoire,
du tout.
Toi, tu es éducateur spécialisé, tu as fait ta formation. En plus, quand on fait notre formation, on se fait proposer d'aller faire psychoéducation à l'université, qui est comme un peu la suite.
La suite, oui,
logique, à l'université. Là, on pourrait dire. Mais toi, à ce moment-là, c'était même pas dans tes plans, là.
Du tout. Moi, ma planification de carrière, donc après avoir terminé la technique, donc j'ai fait mon insertion professionnelle, mais j'ai continué mes études universitaires en enseignement.
Ben oui.
Donc, pour enseigner au collégial, donc pour enseigner aux futurs techniciens et techniciennes d'éducation spécialisée, force de constater que j'ai enseigné une session là, avec mes stages, mais force de constater que je n'ai pas enseigné au collégial. Cependant, lorsque je suis arrivé au collégial et que bon, j'ai occupé un poste de professionnel, il y avait des situations pour lesquelles je me posais des questions. Et soif d'apprendre, donc je me suis inscrit à la maîtrise en éducation que j'ai terminé ma scolarisation et là, je suis en fin de correction.
Oui.
Donc, toutes les petites tâches administratives là, qui me restent à faire là, pour avoir mon diplôme.
Mais en enseignement?
en éducation, mais je me suis intéressée à l'expérience des stages professionnalisants en formation professionnelle.
OK.
Donc, pas avec un ordre d'enseignement pour lequel je travaille présentement, et un ordre d'enseignement qui relève de la formation générale des jeunes et formation générale des adultes, donc dans les centres de services scolaires. Pourquoi je me suis intéressé en formation professionnelle, c'est que je voulais vraiment aller toucher l'entièreté des ordres d'enseignement, donc autant en formation professionnelle, formation collégiale, puis formation universitaire.
OK.
Je vois dans tes yeux dire pourquoi la formation universitaire.
Ben oui.
Mais parce que en plus d'être d'être conseiller au sein des cégeps pour au collégial, je suis aussi chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. Donc, c'est pour ça que je forme les futurs enseignants des futurs métiers professionnalisants.
C'est ça. Mais là, ça veut dire que dans le fond, tu n'enseignes pas finalement aux futurs éducateurs et éducatrices spécialisées. C'est comme si finalement ta trajectoire, elle a bifurqué.
Bifurqué, puis... Parmi, justement, mon champ de spécialisation, que je me suis spécialisé à la maîtrise et par la suite là, dans les recherches, c'est vraiment sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap ou à besoin particulier en contexte de stage ou en insertion socio-professionnelle sur le marché du travail.
Donc, tu parles vraiment, quand tu dis au niveau du stage et au niveau, finalement, du côté un peu plus professionnel, c'est comme de les préparer, finalement, à ce futur-là qui amène des défis. Parce que là, tu les accompagnes pendant leurs études, mais après ça, tu ne sais pas, toi, comment ça va se passer sur le marché du travail.
Exactement. Donc, c'était une des choses pour lesquelles que je me posais la question. Qu'est-ce qu'on met en place au collégial et qu'il va se retrouver sur le marché du travail?
Oui.
Donc, il y avait un point d'interrogation entre les deux dans cette transition-là et je me suis intéressé à cette transition-là, donc collégial, marché du travail et la transition formation professionnelle, marché du travail. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, c'est formation professionnelle vers le marché du travail.
Formation professionnelle...
Oui, c'est les DEP.
Les DEP, dans le fond.
Oui, exactement.
C'est ça.
Donc, les DEP, donc, sont, par exemple, électriciens, soins infirmiers. Mm-hmm. Donc, celle-ci, là, c'est soins infirmiers auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, secrétariat. Il y a 26 domaines là, de secteurs de formation, donc je ne pourrais pas toutes les nommer.
Mais ça... C'est pas au collégial.
Non, ça, c'est en formation professionnelle.
C'est ça. Donc, tu as au niveau collégial et au niveau...
formation professionnelle.
Du DEP, là.
Oui, exact. Puis, je touche aussi à la formation universitaire par le fait d'enseigner aux futurs enseignants. Mais on a des futurs enseignants qui ont des limitations fonctionnelles au milieu de leur apprentissage, mais aussi en vue de leur insertion socio-professionnelle. Donc, quelles sont les stratégies qu'ils vont devoir développer pour... pallier leurs limitations en contexte de stage d'enseignement.
Mais toi, Alexandre, tu n'es pas en situation de handicap à proprement parler, on pourrait dire, dans le sens que peut-être que tu en as un invisible comme plusieurs personnes.
Du moins, je n'ai pas d'apparence d'avoir une situation de handicap. Non. Par contre, c'est sûr que je n'ai pas une situation médicale. Je vais expliquer pourquoi je dis médicale. C'est que je n'ai pas un diagnostic en disant que j'ai des incapacités qui relient à un diagnostic.
Ouais.
Par contre, être en situation de handicap peut arriver selon l'environnement dans lequel tu évolues. Ça, c'est ma façon de le voir.
Mm-hmm.
Je suis un peu plus dans le modèle social du handicap que le modèle médical.
OK.
Donc, la personne handicapée a des limitations et qui amène des incapacités qui va devoir avoir besoin d'adaptation pour justement être en participation sociale. Cependant, le modèle social, ce qui vient nous dire, c'est que les incapacités de la personne est causée par l'environnement dans lequel la personne évolue, ce qui fait en sorte qu'on est dans une situation de handicap ou dans une situation de participation sociale.
OK.
Je t'explique à l'aide d'un exemple.
Oui.
Nous deux, nous marchons sur la rue.
Oui.
Moi, en marchant sur la rue, donc en plein pied. Donc pas de neige, pas d'environnement qui fait en sorte que je pourrais être en situation de compromission, mais je serai pas en situation d'handicap.
Okay.
Lorsque j'aurai à traverser la rue, je vais avoir mes facultés visuelles pour vérifier qu'il n'y a pas de danger.
Oui.
Malgré que je marche à côté de toi et nous sommes dans le même environnement et qu'on doit faire l'action de traverser la rue, tu seras en situation de handicap par rapport à moi, étant donné que moi, j'ai mes capacités, visuelles pour faire mon balayage.
Oui.
Alors que toi, tu auras besoin d'une mesure d'adaptation pour indiquer que c'est le moment de traverser la rue.
Oui.
C'est pour ça que dans certains quartiers, on aime bien lorsqu'il y a un sonore pour permettre aux personnes avec une basse vision ou aveugle de connaître quand est-ce que c'est sécuritaire de traverser.
Oui, absolument. Les feux de circulation, il y en a très, très peu. Hein, des feux sonores qu'on voit, là. Moi, j'en vois très rarement. Malheureusement, il n'y en a pas assez.
Exactement. Par contre, si on prend le même environnement, donc nous sommes en train de marcher. Par contre, on est dans une côte.
Oui.
Et j'ai une faible capacité pulmonaire.
Mm-hmm.
Donc, qui peut être causée par une condition médicale, mais aussi par une fatigue musculaire ou surentraînement.
Oui.
À ce moment-là, nous deux serons en situation de handicap.
Mm.
Pour la simple et bonne raison, c'est que toi, c'est au niveau visuel pour s'assurer de ton environnement qui soit sécuritaire, mais moi, de mon côté, c'est au niveau respiratoire.
Mm.
Mais si on met comme mesure d'adaptation une trottinette, moi, je suis en participation sociale, mais toi, dans ton cas, ça ne change pas que tu sois en situation de handicap parce que ton environnement, il faut qu'il soit encore sécuritaire.
OK.
Donc, c'est pour ça que le modèle social fait en sorte que c'est vraiment l'adaptation de l'environnement en lien avec les incapacités de la personne fait en sorte qu'on est en situation de participation et on enraye la situation de handicap.
OK.
Si je prends aujourd'hui, tu me permets de prendre un exemple d'aujourd'hui
avec toi? Oui, absolument.
Aujourd'hui, lorsque tu es venu m'accueillir, est-ce que tu te sens en situation de handicap, le fait de te promener dans ton environnement de travail sans tes outils pour lesquels que tu utilises lorsque tu te déplaces habituellement?
Comme exemple, ma canne blanche que j'utilise quand je ne suis pas habituée à l'environnement. Mm-hmm. Pas du tout. Je me sens pas en situation de handicap parce que je connais mon environnement. Je peux dire que maintenant, je le possède bien. Je laisse ma canne de côté. Moi, je sais où est-ce que je vais te trouver. Je me suis dirigée sans problème. Je n'ai pas eu peur de me faire accrocher. Mm-hmm. Ou, non, je me sens pas en situation de handicap visuel.
Mais pourtant, ta déficience visuelle n'a pas changé.
Non.
Tes incapacités demeurent.
Oui.
Et pourtant, tu te sens en participation sociale.
OK, on dit ça. On dit en participation sociale.
Oui. Exact.
Parce que je me sens pleinement en mesure de participer.
Comme les personnes sans handicap.
C'est ça. Oui, bien absolument. Mais si je connais mon environnement.
Oui, mais ça, c'est la mesure d'adaptation.
Mais la mesure d'adaptation, c'est que dans le fond, il n'y a pas eu une mesure. En fait, la mesure d'adaptation, c'est que je me suis habituée à mon environnement.
Et qu'ils n'ont pas changé ton environnement de travail.
Ah, OK, OK. Dans le sens que de jour en jour, quand je viens, c'est pareil.
Mais oui.
Tandis que si je viens une journée... Et
qu'ils ont mis une plante en plein milieu.
Oui, c'est ça. Ouais. Là, peut-être que là, à ce moment-là, je vais me sentir en situation de handicap et que là, j'aurais besoin de ma canne blanche.
Exactement, parce qu'on a changé à ce moment-là ton environnement.
OK, je comprends.
Mais le fait que tu circules de façon libre et qu'on n'a pas ajouté des éléments...
Oui.
Bien, tu peux être en participation sociale parce que tu t'es adapté. Donc, tu utilises bien tes outils, tes stratégies.
Oui.
Tes ressources internes ou tes ressources externes, ta canne blanche étant une ressource externe.
Oui.
Donc, cette utilisation-là te permet d'être en participation sociale.
Mm-hmm.
Au même titre que lorsque tu te promènes avec ta canne blanche et que tu fais ton balayage pour t'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle, tu es dans une participation sociale. C'est lorsque je t'enlève ta canne.
Ben oui, je ne pourrais pas marcher.
Et que je dis, marche et rends-toi jusqu'à tel endroit.
Ben non.
Là, tu es en situation d'handicap parce que tu dois compenser par toi-même pour t'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle dans ton environnement.
Oui, oui. Ah, je comprends. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, si je marche dans la rue, ben, je me retrouve que oui, j'ai ma canne blanche, mais j'ai quand même encore des défis.
Oui, parce que les personnes, tu sais, les personnes qui bougent, les personnes qui ne se tassent pas, les personnes qui... Ça aussi, là, ça, c'est, on appelle ça du civisme, là. Mais ça, malheureusement, civisme, on n'a pas de contrôle sur
eux. C'est ça, exactement. Ouais. OK, ça veut dire qu'à ce moment-là, ces étudiants-là, ben, c'est un peu le même... Tu sais, on peut dire que c'est un peu évalué de la même façon.
L'analyse, elle commence effectivement à partir du moment qu'il se rend au cégep. Parce que l'accessibilité, il faut s'assurer...
Rend, tu veux dire, même qu'ils se déplacent.
À partir du moment qu'ils sont les deux pieds sur le cégep, on a l'obligation de mettre en place des mesures d'adaptation, d'accommodement pour assurer l'accessibilité au bâtiment, l'accessibilité au cours, l'accessibilité dans le cours. Pas juste au contenu de cours.
Non, non. Ben, en fait, c'est ça que je trouve intéressant parce qu'on pourrait penser que la mesure d'adaptation, comme moi qui ai mon handicap visuel, ben là, on me dit, OK, ben, de quoi tu as besoin comme outil pour pouvoir écouter en classe? Est-ce que tu as besoin d'avoir un ordinateur qui va te faire
la lecture, la synthèse vocale. Oui.
Exact, c'est ça. T'sais, de quoi tu as besoin, mais tout le contexte autour, moi-même, j'aurais pas pensé que c'est évalué. Peut-être de par rapport à mon propre parcours personnel d'études, là, que ça n'a jamais été pris en considération, mais j'avais pas d'Alexandre
T'avais pas d'Alexandre avec toi. Mais, non. Mais sache que oui, ça fait partie de l'analyse quand même vraiment en périphérie, quand même. Peut-être pas à la défense dans ton parcours scolaire, mais il faut savoir, auparavant, il y avait seulement deux cégeps qui accueillaient les personnes en 64 visibles, donc avec une déficience visuelle, déficience motrice et tout ça.
Ouais.
Donc, ça a changé depuis, là, au cours des années 2010, là, ça a augmenté et ça a été, après ça, déployé dans chacun des collèges. Donc, chacun des cégeps, maintenant, a des services d'adaptation scolaire ou des services adaptés ou, bon, tout dépendant de l'appellation. Mais dans chacun des collèges, là, les cégeps, ils ont maintenant cette obligation-là a été diffusée.
Et il y a quand même un bon pourcentage d'étudiants qui sont en situation de handicap.
Selon les données que j'ai, ça varie entre 15 % de la population étudiante jusqu'à 25 % là. Et je suis encore conservateur dans les chiffres, étant donné que les données, on les a toujours il y a 2 ans, donc à l'automne 2022. Donc, à l'automne 2024, on va le savoir. On va avoir une aperçu l'année prochaine et une confirmation en 2026.
Oui, c'est ça. Mais là, ça veut dire quand même qu'on voit que ça progresse.
Ça progresse beaucoup. Je vous dirais, l'augmentation a commencé vers 2013 là, de mémoire.
Okay.
Ça a eu une augmentation et ça coïncide avec nos étudiants avec un handicap invisible. Qu'est-ce qu'on entend par handicap invisible? On n'utilise plus cette terminologie-là maintenant parce que maintenant, on n'invisibilise plus personne.
Ouais.
Ils sont tous avec des limitations. Donc, autant ceux qu'on voit au premier coup d'œil versus ceux qui doivent un peu plus nous dire qu'est-ce qui se passe.
Mais tu sais, comme on pourrait dire, moi, c'est un handicap qui est visible quand j'ai ma canne blanche.
Exact.
Mais si je n'ai pas ma canne blanche, ça ne paraît pas. Mais ça reste quand même comme... c'est visible.
Oui.
Tandis que quelqu'un qui a un TSA, par exemple,
effectivement,
ça rentre comme ce qu'on pourrait dire invisible.
Invisible, étant donné qu'on ne peut pas le déceler au premier regard.
Oui.
Je pourrais te raconter quelques anecdotes de personnes, justement, que parfois, il y a des personnes qui utilisent des outils pour lesquels ils n'ont pas accès, étant donné qu'ils n'ont pas
le diagnostic
ou les limitations qui sont associées.
Oui.
Je vais répondre à ta première question. C'est effectivement, il y a eu cette augmentation, donc la neurodivergence qu'on peut appeler, donc qu'est-ce qui rentre dans les troubles d'apprentissage, le trouble neurodéveloppemental et les personnes avec dans le spectre de l'autisme.
Mm-hmm.
Et une autre catégorie qui est les troubles de santé mentale. Là. Donc, il y a une augmentation là, vers les années 2013 là, et ça augmente.
Et si on regarde au niveau des étudiants en situation de handicap visuel, peut-être que c'est un petit peu plus difficile là, t'sais, de dire le pourcentage précis. Je sais que c'est une petite catégorie.
Oui. C'est pour ça que je parle d'une niche.
D'une niche.
Parce que dans ma carrière, donc à l'heure actuelle, j'ai eu l'opportunité d'en accueillir 2. Donc, moi, j'ai accompagné 2 personnes, donc 2 étudiantes aveugles. Donc, puis j'utilise le terme aveugle parce que c'est leur identité, c'est comme ça qu'ils s'est identifié.
Oui.
Donc, une personne qui est née sans ses globes oculaires, donc c'est des implants oculaires oculaires qu'elle a.
Okay.
Et l'autre personne, c'est elle a un faible résidu là, visuel, mais ce n'est pas suffisant là, pour qu'elle ait une orientation. Donc, il y a des mouvements incontrôlés de ses yeux, donc en permanence. Donc,
okay.
Ce qui fait en sorte qu'elle n'a pas connaissance là, que oui. c'est. Donc, c'est deux liseuses braille.
Oui.
Donc, c'est deux personnes qui utilisent le braille pour faire leur lecture. Donc, on peut prétendre ou prendre en considération que c'est dès la naissance là, qu'ils ont eu oui. cette. Cette
ben, finalement, eux autres, là, comme eux autres, le diagnostic vient d'emblée. Là, oui. Ils n'ont pas à dire je dois prouver, là, le diagnostic
exact.
Est là, là.
Exact. Donc, par contre, j'ai accompagné aussi une autre personne étudiante qui s'est présentée à mon bureau avec une canne. Donc, elle fait. Donc, au premier regard, elle balaie et, avec sa canne et on peut percevoir ou prétendre qu'elle est. Avec une basse vision ou en situation ou aveugle.
OK.
Pour se rendre compte que lorsqu'on fait l'analyse de besoins, tout ça, qu'on se rend compte qu'elle a acheté sa canne sur Amazon.
Oh.
Elle n'est pas accréditée.
Par la RAMQ. Parce que les cannes blanches, c'est la RAMQ.
Donc, puis elle n'a pas de dossier ouvert à l'Institut Nazareth-Louis-Braille ou à l'INCA. Donc, plus qu'on investissait, plus qu'on se rendait compte que. Qu'est-ce qu'elle souhaitait?
Ouais.
Donc, quelles sont les limitations? Et c'est pour ça que l'analyse de besoins est très importante et qu'on ne peut pas prendre deux personnes ayant les mêmes conditions, ce qu'on voit, mm-hmm. pour mettre les mesures d'accommodement. Donc, c'est vraiment individuel. Et on s'est rendu compte que cette personne-là avait falsifié là, certains dossiers.
Non, mais ça, c'est quand même... Il y a quand même quelque chose d'intéressant de dire que... Parce que quand on a l'handicap visuel... C'est déjà un combat, juste assumer la canne blanche. Là.
Oui.
Et je me dis, quand c'est quelqu'un qui... Parce que ça m'est déjà arrivé, je me rappelle quand je voulais prendre l'autobus dans le temps où est-ce que, tu sais, j'avais la canne blanche, mais que c'était pas encore, bon, quelque chose que j'avais absolument besoin à 100%. Et là, j'étais plus dans essayer d'approprier... Ce nouvel outil et cette nouvelle identité. Mm-hmm. Et des fois, c'est ça, on arrivait et on me disait « Ben, t'es pas une vraie aveugle parce oui. que t'as une canne blanche, mais tu utilises ton téléphone. » Tu vois, c'est ton téléphone. Puis souvent, je me disais « Ben voyons, qui voudrait aller s'acheter une canne, une fausse canne, juste pour dire « Oui, 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 moi, j'ai un handicap visuel, donc je peux être assise en avant dans l'autobus, mais c'est pas réel. » Je trouvais ça un peu étrange parce que je me suis dit « Ben non, c'est déjà difficile pour moi d'assumer mm-hmm. que j'ai une canne blanche. Je vois pas en plus dire « Ah, ça me tente d'aller m'en chercher une sur Amazon. » Fait que ça, je trouvais ça...
Oui, c'est assez,
quand même
c'est assez
intéressant.
Cocasse.
C'est cocasse.
C'est cocasse. Et c'est quand même... Tu sais, quand je parle d'une niche en tant que telle, l'handicap visuel, c'est que c'est un faible pourcentage dans nos collèges.
Oui.
Et c'est un peu dilué dans chacun des collèges. Il y a quand même 48 cégeps publics plusieurs cégeps privés,
oui.
donc pour totaliser environ de mémoire, je pense que c'est 89, là,
oui.
mais je n'ai pas les données très, très, très précises.
Oui, oui,
mais
oui.
sur les 89 établissements, ça peut osciller de 1 à 2 % de notre clientèle. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque j'en ai un dans mon lot de dossiers qui oscille entre 200 et 300 étudiants,
mais
si j'en
oui.
ai un, ben c'est un faible pourcentage.
Oui.
Par contre, ça demeure pas moins que cette personne-là nécessite des adaptations spécialisées.
Mm-hmm.
Et c'est vraiment important de s'y attarder parce qu'il y a des adaptations pour lesquelles on prétend des choses ou qu'on dit « ben, je me sens impuissant
mm-hmm.
parce que je n'ai pas cette connaissance-là ». C'est pas les personnes qu'on côtoie le plus dans notre quotidien.
Non.
Et on en apprend à tous les jours.
Oui.
Dans ma pratique, lorsque j'ai accompagné les deux étudiantes, c'était tout un travail sur mon identité professionnelle
mm-hmm.
parce que je me remettais en question et je remettais aussi en question les adaptations qui étaient possibles d'être faites. Et j'avais aussi la confrontation à faire avec les enseignants pour les sensibiliser.
Mm-hmm.
Par exemple, l'utilisation d'un PowerPoint, ce n'est pas accessible nécessairement
non.
pour la personne avec une basse vision ou aveugle.
Oui.
Donc, de quelle façon on peut le rendre accessible? Je présente une image. Oui, les personnes avec une capacité visuelle peuvent déceler les détails dans
oui.
l'image, mais pas la personne avec une déficience visuelle.
Mm-hmm.
Donc, ce qui fait en sorte que toutes ces adaptations-là, dans l'enseignement, ça apportait aussi des lots de changements auprès des pratiques enseignantes. Donc, ce qui fait en sorte que c'est une méconnaissance ou une sensibilisation qui devait être faite. Mais la sensibilisation, elle découlait d'une méconnaissance.
Et est-ce que tu dirais qu'au niveau des étudiants en situation de handicap visuel, il y a quand même quelque chose ou est-ce que c'est différent? Tu sais, soit qu'il y a plus d'obstacles, plus de sensibilisation à faire. Y a-tu comme quelque chose que tu vois qui est différent à ce niveau-là versus d'autres types d'handicap?
Je crois que la sensibilisation qui est plus importante, c'est vraiment en lien avec les capacités de la personne et les adaptations qu'elle a développées et les stratégies qu'elle a développées. Au niveau des apprentissages, c'est pas quelque chose qu'on va remettre en question parce que les compétences qu'on évalue, c'est les mêmes pour une personne avec vision ou sans vision. Mm-hmm. Donc, de quelle façon on rend le produit, la personne peut le rendre quand même avec dans un fichier, donc elle écrit son travail, tout ça.
Oui.
Par contre, lorsqu'on la met en situation de participation en éducation physique,
oui,
il y a des mesures qui existent au secondaire pour lesquelles, bien, ils sont dans une classe régulière et les adaptations ne sont pas mises en place nécessairement. Et donc, la personne avec une basse vision ou aveugle se fait mettre sur le banc, puis on ne lui demande pas de faire d'éducation physique et on l'exempte de son cours d'éducation physique. C'est arrivé souvent au collégial lorsqu'on arrive avec des personnes avec un handicap visuel qui arrivent avec une exemption en éducation physique.
Okay.
Alors, au collégial, il y a des sommes qui sont allouées et on peut mettre en place d'autres choses, notamment un cours d'éducation physique adapté. J'ai une de mes collègues qui a envoyé un de ses étudiants avec deux enseignants, donc un qui est accompagnateur physique et l'enseignant du cours pour aller faire du ski, donc du ski adapté. Mais il a quand même fait tout le processus de son cours d'éducation physique en faisant du ski, mais en étant quand même accompagné. Donc, ça demandait plus de ressources, oui, mais il est possible d'accomplir des choses, mais il faut sortir de la boîte.
Mm-hmm.
Donc, c'est au niveau de cette adaptation-là, lorsqu'on met en place le corps de la personne pour réaliser le travail, et la même chose pour la sensibilisation auprès des employeurs et pour favoriser la participation au travail.
C'est super intéressant, Alexandre. On va faire une courte pause, puis on va continuer un petit peu ensemble parce que j'ai plein d'autres questions.
Ça va me faire plaisir.
Merci, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Je suis vraiment enchantée de vous faire découvrir cette profession avec Alexandre Poitras. Je trouve ça tellement intéressant parce qu'on dirait que, ben, tu sais, moi-même, je l'ai vécu. Et ce parcours-là, au niveau des étudiants, je trouve qu'il y a encore tellement de trucs qu'on fait. Ah, OK, ça va être facile. On dirait que je me disais, tu sais, exemple, toi, Alexandre, tu n'as pas d'handicap visuel.
Non.
Là, tu as une étudiante qui arrive qui a un handicap visuel.
Oui.
Parce que tu n'as pas d'handicap visuel.
Non, donc je ne peux pas lui attribuer des incapacités. Donc, c'est vraiment là la finesse de l'entretien avec la personne et de la relation que je vais créer avec elle pour qu'elle m'explique c'est quoi les limitations pour lesquelles qu'elle a besoin de mon aide.
OK.
Donc, lorsque je lui pose des questions, donc on investigue et on fait toujours des liens avec les compétences qui sont en lien avec le programme. Bien entendu, là, je vais aller dans un extrême.
Oui.
Mais il y a une raison pourquoi qu'une personne avec une basse vision ou aveugle, ne pourra pas être chirurgienne.
Oui, mais je veux dire ça, on le sait. Tu me dis ça, puis moi, c'est assez clair que...
C'est clair pour toi, mais sauf qu'en même temps, la personne identitaire, aveugle et qui désire pratiquer la médecine... Est-ce que c'est vraiment être chirurgienne qu'elle souhaite pratiquer ou c'est il y a une composante dans la médecine qui fait en sorte que ça l'intéresse?
Oui, OK, je comprends.
Là, c'est d'aller investiguer, de savoir quelles compétences qu'on peut faire et quelles compétences qu'elle ne pourra pas faire. Par exemple, faire l'analyse de pathologie. Bien, moi, c'est déjà arrivé que j'ai dit avec une étudiante, bien, parfait, on va accomplir, voici la tâche que tu as à accomplir, que tu auras... Et je veux que tu me démontres les mesures que tu mets en place et les stratégies que tu as, mais voici ce qui devrait être fait. Donc, identifier des couleurs, identifier la forme. Donc, elle est en mesure de répondre à certains critères, mais le critère sur la couleur, elle n'arrivait jamais à y répondre. Okay. Elle n'avait pas la perception visuelle. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte que, automatiquement, dans les critères d'évaluation, ben, elle était en situation de compromission et de ne pas atteindre la compétence.
Ah, je comprends.
Donc, là, mon travail avec l'enseignant, mais aussi avec la conseillère d'orientation, c'est de lui expliquer que ses incapacités, ses limitations, malgré qu'on mette en place des mesures d'aide technique d'accompagnement, elle n'arrivera pas à atteindre la compétence et on ne peut pas changer les compétences d'un programme d'études.
Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas non plus la mettre en situation d'échec.
Bien non, parce que les situations d'échec, bon, on travaille sur l'estime de soi, on va travailler sur la perception de la compétence de la personne. Donc, il y a tout le facteur psychosocial qui vient aussi jouer dans l'équation. Mais il ne faut pas sous-estimer quand même les capacités de la personne. Les deux étudiantes aveugles que j'ai accompagnées sont les deux en musique.
Déjà, on voit que c'est plus accessible que la chirurgie.
Tout à fait. Par contre, une des compétences, c'est la lecture à vue. Donc, on voit une partition et l'étudiante devait chanter ou faire justement les...
Do, ré, mi, fa, sol, ben, là, ouais, les
exactement,
notes.
Exactement, les notes, donc en chantant. Oui. Donc, j'ai une étudiante qui était en chant et une étudiante qui est joue du saxophone.
OK. Les deux doivent lire.
Deux doivent lire, mais les deux n'ont pas la même concentration. Donc, la même concentration dans le sens qu'une, c'est en chant classique et l'autre était en chant jazz. Mm. Donc, ce n'est pas les mêmes enseignants, mais le même département. Donc, toute cette sensibilisation-là a été faite sous, vraiment, par apprentissage.
Mm-hmm.
Le braille musical... C'est un apprentissage à lire pour les personnes
OK, le braille...
Il se fait braille musical.
Musical, donc oui. une portée en braille.
Oui, exact. Donc, c'est pas la même façon, là. C'est un autre...
Oui.
Et trouver un fournisseur qui peut adapter en braille musical, on en a trouvé un, donc ça a été aussi un travail parce qu'il faut la rendre accessible, les cours pour l'étudiant. Donc, c'est un apprentissage... constamment.
Mais toi, tu le sais pas à ce moment-là qu'il y a du braille qui se fait, là?
Du tout. Et en étant très humble, j'ai posé des questions. Après ça, j'ai dit, OK, on va aller d'une intervenante à l'Institut Nazareth-Louis Braille. Ben, on va l'appeler, on va se rencontrer, on va parler de ton projet. Mais c'est possible pour elle de faire le projet, mais dans quelles conditions et sur quel cheminement et combien de temps?
Oui.
Parce que moi, la contrainte de temps que j'ai, c'est qu'il faut que je fasse adapter le matériel.
Oui.
Le matériel, il est créé pour les personnes voyantes.
Oui.
Donc, mais il est possible de le faire pour les personnes qui lit le braille.
Mais ça veut dire que toi, à ce moment-là, là, c'est beaucoup aussi dans « OK, bon, je le sais pas », parce que toi, sur le coup, tu le sais pas, à moins que tu aies déjà eu mais si tu n'as pas eu d'étudiant avant ça, tu le sais pas. Alors là, c'est d'utiliser finalement, OK, bon, bien, on va appeler ton intervenant,
exact.
Tes connaissances, le fait que tu es un gars aussi, tu sais, qui est très curieux, puis que rarement tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu dis, il n'y en a pas de solution, tu vas trouver quelque chose, hein? Tu vas cogner à différentes portes.
Exactement,
ça va...
donc la première étape, bien, j'ai posé les questions à l'étudiante, j'ai demandé c'est qui ces intervenants, j'ai rencontré les intervenants. Après ça, bien, j'ai regardé les ressources qu'on avait comme fournisseurs. Il y a des centres qui existent, notamment l'Institut de Nazareth-Louis Braille, qui ont une expertise. Donc, je les ai utilisés. Donc, j'ai utilisé mes contacts, j'ai utilisé toutes les ressources que j'avais en ma possession. Et ce qui m'a avantagé, c'est que l'étudiante, je l'ai rencontrée avant qu'elle commence le cégep. Donc, je l'ai rencontrée au mois de mai. Donc, lorsqu'elle est venue aux portes ouvertes, je lui ai demandé, dès que tu as ta lettre d'admission, parce que je savais qu'il y avait hors des étapes et que je devais quand même investiguer, dès que tu as ta lettre d'admission, contacte-moi, on va procéder.
Mm-hmm.
Même si c'est au mois d'août que tu vas entrer au cégep, je ne peux pas attendre au mois d'août.
Mm.
Et avec son intervenante, on a fait un plan d'action pour justement favoriser son aisance pour naviguer dans le cégep.
Oui.
Parce qu'il y a des endroits, puis il y a des obstacles, puis il y a des...
Mais juste comme tu dis, même
s'adapter.
Physiquement, là.
Tout à fait. Donc, ça a commencé de cette façon-là. Donc, je suis quelqu'un qui quand même, je me connais dans mes ressources internes. Mm-hmm. Je suis quelqu'un qui est organisé, qui planifie ses choses d'avance. Et je sais que le travail... était sur une longue période.
Ouais.
Donc, j'aimais mieux commencer dès possible. Donc, dès qu'elle a son admission officialisée, puis ensuite, bien, on commençait. Donc, contacter les enseignants, avoir accès au matériel, ouais. envoyer le matériel, discuter avec les enseignants pour que ce soit des enseignants qui soient réguliers, permanents, parce que la précarité dans les milieux collégiaux fait en sorte que lorsque tu arrives avec un nouvel enseignant qui on t'apprend, bien, juste pour te dire, tu es une personne aveugle, donc tous tes changements d'adaptation, puis il faut que tu changes au fur et à mesure, ça crée un stress quand même chez l'enseignant, puis
oui.
c'est pas favorable à un apprentissage
oui.
pour lui, son insertion professionnelle, mais aussi pour la personne aveugle qui sent qu'il met de la pression par le fait qu'elle a besoin d'adaptation, par le fait qu'elle a des incapacités, puis elle, sans ces adaptations-là, elle n'a pas accès aux cours. Et donc, toute cette gymnastique-là, ça demande de la finesse puis
quand
de l'empathie.
Bien, là, ça, c'est sûr. Mais c'est parce que, dans le fond, c'est qu'on voit que ton travail, il est quand même assez large. Là. Tu sais, c'est l'étudiant, l'intervenant, exemple de Louis Braille,
oui.
les enseignants,
mm-hmm.
Tu sais, qui peut avoir différents obstacles. Parce que là, si en plus tu fais le tour du cégep pour l'étudiante, bien là, il y a tout aussi les autres étudiants.
Tout à fait, tout à fait. Les autres étudiants, donc c'est quand même... comment on cohabite tout le monde ensemble.
Oui.
Puis, comment aussi la personne étudiante ne se sente pas exclue ou à part.
Mm-hmm.
Ou comment on peut rendre ça disponible pour elle. Donc,
oui.
de quelle façon on utilise aussi ses contacts, son réseau, ses amis pour justement faciliter, par exemple, le déplacement le soir. Donc, à partir de 18h, il y a des cours qui se terminent à 18h,
mm-hmm.
mais est-ce que les ressources sont toujours disponibles? Donc, il y a des ressources humaines qui existent, donc des personnes qu'on peut embaucher pour accompagner, pour assurer la santé et sécurité sur les lieux.
Mm-hmm.
Parce que dans les déplacements, des fois, entre pavillons, il faut qu'elle passe dans le stationnement. Ben, en n'ayant pas une capacité visuelle optimale, comment j'assure la sécurité de la personne si elle se promène à travers le stationnement? Donc, à ce moment-là, on a quand même des obligations en matière de santé, de sécurité et sur notre lieu d'établissement scolaire. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut que je mette en place les choses. C'est toutes les différentes lois. Donc, on ne peut pas regarder seulement la sphère scolaire.
Non.
On doit vraiment regarder différentes sphères.
Oui.
Tout le transport adapté. Donc,
mais
de quelle façon...
Oui,
C'est très 360, là, notre travail, parfois. Mais sauf qu'on ne travaille pas seul. On ne peut plus travailler en silo. Lorsqu'on on est accompagné d'une personne avec un handicap visuel ou un handicap qui demande plusieurs acteurs, on ne peut plus travailler en silo. Je ne peux pas travailler seul dans mon bureau. J'ai besoin de la personne et j'ai besoin des intervenants qui ont d'autres expertises que la mienne.
C'est ça, parce que dans le fond, toi, tu fais une portion du travail, mais est-ce qu'à un moment donné, ça devient... Parce que je sais que il y a aussi des éducateurs, des éducatrices spécialisées dans le service.
Oui.
Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est OK, parfait, voici ce que j'ai fait. La portion suivante, c'est l'éducatrice qui continue la suite.
Oui.
Donc,
tout dépendant du plan d'intervention, du plan d'action qui est mis en place. Là, faut quand même, le plan d'intervention. Ce qui est mis en place, c'est les mesures d'accommodement, donc les adaptations qui sont nécessaires en vue d'une participation sociale et aussi en vue que la personne puisse réussir ses cours. L'éducatrice est spécialisée, c'est sûr, va être un atout dans l'équipe et dans l'équation pour tout ce qui est au niveau de l'acceptation justement de l'identité ou des relations interpersonnelles ou comment je peux travailler en équipe avec une personne avec une déficience visuelle, la sensibilisation auprès. Des fois, c'est le milieu de stage, des fois, ça va être envers des enseignants.
Oui.
Donc, ça dépend de la disponibilité. Bien entendu, comme je vous ai dit tantôt, le nombre de dossiers varie entre 200 et 300.
C'est beaucoup.
Tout dépend des collèges. Bien, si j'ai 250 dossiers, vous comprendrez que dans ma semaine, il n'y a pas une seule étudiante que je peux rencontrer. Donc, ça se peut que des fois, je sois occupé puis qu'à ce moment-là, je dois lancer la POC à quelqu'un d'autre pour qu'elle prenne le relais. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on travaille en vraiment multidisciplinaire et l'équipe ne peut plus être seulement une personne.
Non, c'est ça. Et toi, est-ce que tu peux nommer le cégep où tu travailles?
Bien, moi, j'ai travaillé dans différents cégeps, des cégeps. Donc, présentement, par mon rôle, j'accompagne différents cégeps.
Différents cégeps, c'est ça, parce que ça veut dire que tu peux être impliqué dans différents dossiers, dans différents cégeps en lien avec des étudiants. Exact. En situation de handicap, oui. Mais que tu n'auras pas le même suivi personnalisé que tu as dans le cégep où est-ce que tu es attitré.
C'est ça. Présentement, je n'ai plus d'accès avec les étudiants. J'accompagne les services adaptés.
Les services adaptés. Et on va essayer d'avoir une étudiante. Justement, on est en contact avec elle. C'est juste que ça ne marchait pas aujourd'hui. Oui. Mais une étudiante qui a un handicap visuel, on va essayer de la voir là, dans les prochaines semaines pour faire une entrevue avec elle puis qu'elle nous parle de son parcours.
Oui, puis elle pourra vous expliquer aussi comment on a travaillé ensemble et la relation que ça a pris aussi et comment on a appris à se connaître aussi par le fait, parce que c'était ma première étudiante avec une déficience visuelle, un handicap visuel et j'ai beaucoup appris d'elle.
Exact. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Ça a été un plaisir. Puis c'est sûr qu'on va avoir... On s'était noté tellement de choses à jaser. Je savais qu'on allait en avoir beaucoup, beaucoup qu'on ne pourrait pas discuter parce que c'est tellement intéressant. On va se revoir. On va pouvoir en parler. Et là, tout de suite après, je vais avoir une entrevue avec Marc Lemieux, qui est directeur général de l'ASAC, l'Association sportive des aveugles du Québec. Toi qui es un grand sportif, justement, Alexandre. Donc, tu vas pouvoir écouter ça et trouver ça, je suis convaincue, très intéressant. Donc, on se retrouve tout de suite avec Marc Lemieux. Je suis maintenant en entrevue avec Marc Lemieux, qui est directeur général de la SAC, et pas la SAAC, la SAC, Association sportive des aveugles du Québec. Bonjour, M. Lemieux.
Et bonjour à vous.
Comment allez-vous?
Ça va très, très bien, et vous-même?
Bien oui, ça va vraiment très bien. Moi, j'adore la SAC pour avoir participé là, à de la course accompagnée avec des guides qui étaient avec vous. J'ai beaucoup aimé ça. Et là, on va parler parce que, bon, évidemment, vous avez plein d'activités qui sont super intéressantes, mais un que moi, j'aime beaucoup parce que j'avais assisté à un tournoi de goalball. Et moi, j'adore ce sport. J'ai jamais joué, mais j'adore. J'avais même vu des jeunes jouer à ce sport-là, des jeunes en situation d'handicap visuel, d'autres qui n'en avaient pas. Je trouvais ça magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Mais là, on va parler du tournoi de goalball qui est bientôt 24, 25, 26 janvier. Là, donc, c'est comme là. C'est très bientôt.
Oui.
C'est le tournoi de goalball. Premièrement, qu'est-ce que c'est le goalball? Ce sport-là?
Bien, le goalball, en fait, c'est le seul sport, je dirais, paralympique qui n'a pas été adapté. Hein. Vous savez, souvent, les sports qu'on voit aux paralympiques ont été adaptés de sports courants, qu'on peut dire.
Oui, oui.
Le goalball, en fait, a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale par un médecin qui voulait faire bouger les soldats qui revenaient de la guerre.
Okay.
Qui avait, dans le fond, un handicap visuel sur à la garde. C'est là, l'histoire, là, mais...
Oui.
Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est qu'il a développé le sport, dans le fond, pour les gens, justement, qui avaient perdu la vue ou qui étaient semi-voyants. Fait qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme sport? Ça prendrait quelque chose de sonore, hein, pour pouvoir entendre ça. Fait qu'il a créé, dans le fond, le fameux ballon goalball, qui est un ballon en caoutchouc, là, assez rigide quand même, là, qui a des cachettes dedans, dans le fond, donc qui fait le bruit. Donc, c'est comme ça que les joueurs peuvent se guider, si on peut dire ça comme ça, quand ils reçoivent le ballon ou qu'ils l'envoient, là, ou qu'ils se le passent, comme on peut dire aussi.
Oui.
Donc,
oui.
Après la barre, c'est un peu ça. C'est un sport qui est devenu officiel aux Paralympiques en 76.
OK.
Donc oui, ça fait quand même un petit coup de temps, là, même si c'est peu connu, là. Ça reste, comme vous disiez tantôt, c'est un sport assez incroyable, puis vraiment spectaculaire, là. Donc c'est un 3 contre 3. On lance le ballon un peu comme, je dirais, un mélange entre le ballon chasseur, vous vous souvenez, à l'école quand on était jeune.
Oui.
Et aussi les quilles, hein, qu'on lance la boule de quilles là, par en
oui.
bas. Là.
Oui.
Mais il y avait plein de twists, comme je peux dire, excusez-moi l'expression anglaise, là, quand on voit les joueurs de haut niveau, justement aux Paralympiques ou au niveau national, même au niveau des provinces, là, on
oui.
voit que il y a beaucoup de force qui est appliquée sur le ballon, de l'effet et tout, un rebond, en tout cas, bref, c'est sûr qu'il y a plein de règles que je rentre pas dans les détails. Mais juste pour dire comme quoi que c'est un sport, dans le fond, 3 contre 3, ce qui fait qu'on envoie le ballon et qu'on le reçoit.
Oui, c'est
et,
ça.
C'est vraiment ça qui est spécial, parce que quand on le reçoit, dans le fond, les joueurs se mettent en position
couchée,
par terre, puis ils se couchent justement quand le ballon arrive.
Oui, c'est ça.
Ils essaient de diriger justement avec le son et puis ils arrêtent le ballon. Après ça, ben souvent, ils vont se relever rapidement. Donc, ça prend quand même, c'est un sport quand même, c'est très demandant, là.
Mm-hmm.
Couche par terre, on se protège comme il faut le visage, on prend le ballon, on se relève rapidement. Soit qu'on passe le ballon à un de ses coéquipiers ou qu'on l'envoie tout de suite, je peux vous dire qu'il faut être en forme.
Bien, c'est parce qu'en fait, le goalball, moi, ce que j'aime de ce sport-là, c'est que je trouve qu'il est... Parce que là, vous, dans le tournoi, est-ce que c'est pour des personnes en situation de handicap visuel ou il peut y avoir des gens qui sont voyants?
Bien, en fait, on se comprend que le sport, avant tout, est pour les personnes qui ont un handicap
oui.
visuel. Mais il est possible, dans certains cas, d'avoir un joueur, par exemple, ou une joueuse, là, qui est voyant. Et une des particularités, c'est que tout le monde, c'est égal pour tous, hein,
oui.
parce que tout le monde a un masque noir
oui.
sur les yeux, assez gros. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que ça avait l'air. Là,
oui.
C'est comme un gros masque qui couvre tous les yeux complets. Et en plus, dans les tournois, comme le tournoi de Montréal là, de la semaine prochaine, il y a aussi en plus des bandages sur les yeux.
Ça veut dire ouais. que quelqu'un justement qui a la capacité visuelle, ben, uh-huh. elle embarque dans uh-huh. l'univers finalement de ceux qui ont un handicap visuel. Alors que souvent, c'est le contraire. Uh-huh. Souvent, c'est la personne qui est en situation de handicap qui doit s'adapter.
Ouais. Ouais.
Mais là, c'est
ouais.
l'inverse. Parce que moi, j'avais vu un match avec la Fondation des aveugles du Québec et ouais. c'était pour les enfants.
Oui.
Et il y avait un mélange d'enfants avec en situation de handicap et d'autres qui ne ouais. l'étaient pas. Et on pouvait même pas savoir lesquels.
Exactement. Le fait qu'il y ait un masque, là, c'est sûr, quand c'est un tournoi avec des plus jeunes, comme ça, c'est juste un loup. Hein,
oui, c'est un petit loup, c'est
on
ça.
On met sur les yeux comme
oui.
pour dormir ou en avion. Là.
Oui, oui.
Donc, on s'entend qu'il peut avoir une petite lueur qui passe, mais il ne voit pas quand même
mais
le
non.
masque. Là.
Mais non.
Mais de haut niveau, on a un masque vraiment fait exprès, réglementaire en fait, qui est assez épais, tout ça, et qui couvre vraiment bien. Et en plus, il y a une patte sur les yeux. Fait que c'est vraiment l'inclusion à l'envers.
Ah oui.
On peut l'appeler comme ça. D'ailleurs, on a un programme qui s'appelle comme ça dans les écoles, là, mais ça pour dire que oui, n'importe qui peut jouer puis se mettre dans ce monde-là. Pas voir et de pouvoir faire un sport.
Oui, vraiment. Et là, ce tournoi-là, qui est le du 24 au 26,
ouais.
à ce moment-là, les gens peuvent s'inscrire. Comment ça marche?
Eh bien, en fait, les équipes sont déjà complètes. Il y en a 18 au total qui sont pour le tournoi, dont 10 équipes d'hommes et 8 d'équipes de femmes.
Ah, c'est beaucoup!
C'est le plus gros tournoi depuis qu'il existe, c'est le 23e hein, tournoi
wow.
de Global Invitation de Montréal, là, le tournoi Invitation de Global de Montréal, puis IGM, ça, pour l'acronyme. Et c'est la première fois qu'il y a 18 équipes. Normalement, le plus, c'était 16. Mm. Donc, on a un horaire très chargé, mais tout le monde va pouvoir jouer. Il va y avoir des finales et tout ça. Et c'est des équipes qui proviennent un peu partout au Canada
okay.
et des États-Unis aussi. Donc, il y a une faveur internationale quand même. Donc, c'est
wow.
vraiment...
Et ce tournoi-là va être à quel endroit?
Oui, c'est le complexe récréatif Gadebois. Je ne sais pas si vous
savez. Ah, ben oui. Mais Gadebois, oui, ça, c'est pour les enfants qui sont sourds?
Non, ça, c'est... Non? Peut-être que Joseph Charbonneau, que vous pensez?
Mais l'école, en tout cas, l'école Gadebois, c'est vraiment pour les enfants qui sont sourds?
Ah, OK. Ben, c'est pas le
mais
même
Mais c'est classe, pas ça. OK, il y a un complexe. Hein? Bon, ben, vous m'apprenez oui. quelque chose. OK.
Oui,
complexe ben, en fait, Gadebois.
Oui, pour la petite histoire, là, c'est un centre qu'on utilise là, depuis, je pense, une quinzaine d'années là, pour ce tournoi-là qui est récurrent. Là. Le complexe récréatif de Gadebois se situe au 5485 chemin de la Côte-Saint-Paul à Montréal.
OK.
Et dans le quartier, dans le fond, dans le sud-ouest de Montréal, tout simplement.
OK.
En dessous de l'autoroute 20 là, et tout ça, là... Un endroit un peu isolé là,
ouais.
de sud-ouest. Mais si on va sur le site web et on rentre le complexe récréatif Gadebois sur Google, par exemple, ben, on va trouver oui. l'adresse. On peut aussi trouver l'itinéraire pour se rendre soit en voiture ou en transport en commun sans problème. Là. C'est sûr qu'il y a une petite marche là, si on arrive en transport en commun. Là,
oh, oui.
Ça reste une belle place, c'est grand. On a deux gyms qui est utilisé tout le long du tournoi. Donc, il y a des matchs en simultané dans les deux gyms.
Oui.
Et c'est vraiment du niveau là, élite. Là. Donc, c'est vraiment à voir. Et c'est gratuit, en passant.
Ah, oui.
Oui, pour les auditeurs, là, c'est complètement gratuit. Vous pouvez arriver là comme ça. Si vous voulez voir l'horaire des matchs,
mm-hmm.
c'est sur notre site web à nous.
Oui.
Donc, sportavec.qc.ca, sport avec un S, avec un S, .qc.ca. Vous allez trouver là, toute l'information là, sur le tournoi, l'horaire et tout ça. Et visitez aussi notre page Facebook. On va mettre aussi les résultats des matchs pendant le tournoi. Là, donc,
Oui, et c'est vraiment, je trouve ça vraiment impressionnant là, de voir la quantité de gens qui vont être, qui vont participer finalement, qui vont jouer. C'est beaucoup, là, parce qu'on parle de 3 par équipe, donc ça fait...
Ouais. On a une centaine de joueurs qui vont être présents à ce tournoi-là. L'année passée, on avait juste 10 équipes. Donc, c'est un retour un peu, comme on peut dire, vous savez, post-pandémie, là, où ce que là, tout revient vraiment à la normale. Donc là, les équipes de voyager et tout. On a failli avoir une équipe du Mexique, malheureusement, ça n'a pas marché, mais ça a passé proche.
Et ça veut dire que dans toutes ces équipes-là, là, on parle de gens qui sont en situation de handicap, là.
Oui, je vous dirais, là... Je n'ai pas le pourcentage exact, malheureusement, mais on parlera peut-être de 99,9%.
OK. Bon, mais moi, je pense que je vais y aller pour aller rencontrer des gens en situation de handicap pour avoir des futurs invités dans mon émission parce que je trouverais ça vraiment intéressant d'avoir... Oui, c'est ça. Oui.
Pour votre information, on a 2 équipes d'hommes du Québec puis une équipe de femmes du Québec.
Du Québec.
En passant... Si vous connaissez Priscilla Gagné,
non.
qui est une judoka de niveau international là, qui fait partie de l'équipe des femmes là, cette année. Là, qui a déjà joué au goalball dans le passé, il y a longtemps, qui a venu compléter notre équipe de femmes. Donc,
Priscilla...
on est content d'avoir une équipe à ce niveau-là.
Priscilla qui, vous avez dit?
Priscilla Gagné.
Gagné, qui a un handicap visuel.
Oui, absolument, et qui est judoka au Paralympique. Donc, une athlète de haut niveau. Donc, on est bien contents. Elle vient compléter notre équipe, finalement. Donc, on va avoir au total 3 équipes du Québec qui vont compétitionner pendant le tournoi. On est bien contents.
Eh bien, oui, on est vraiment bien contents. Donc, on invite les gens à aller sur le site de la SAC. En fait, on peut-tu tout simplement écrire ASAQ?
Oui, si on fait ASAQ, si jamais vous ne trouvez pas directement ASAQ Sport, là, ou... Avec ou peu importe, là, vous allez tomber dessus directement. Là, mais ça, c'est rapide. Là, on sort bien dans les résultats.
OK. Bon, bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Monsieur Lemieux. Ça a été un grand plaisir. Finalement, on a parlé du tournoi, mais je trouve ça...
Oui.
On pourra faire une autre entrevue pour parler de c'est quoi vos activités, un petit peu plus de façon... En fait, on pourra se parler après le tournoi, voir comment ça a été et tout ça. Mais ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Donc, je vous souhaite une belle journée et un très bon tournoi.
La même chose pour vous. Merci.
Merci, au revoir. Je remercie évidemment mes invités, donc M. Lemieux et mon collègue Alexandre Poitras. Évidemment, Mathieu Tessier qui est à la mise en onde. Je remercie Canal M pour offrir cette belle tribune pour parler de l'handicap visuel. Je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et moi, ben, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye bye.